Aleluya, aleluya, aleluya. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque le père et la mère de l'enfant présentaient Jésus au temple, ils s'étonnèrent de ce qui était dit de lui. Alors Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée par le glaive, de sorte que seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur dans la multitude. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qu'il nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. La méditation du Saint Curé d'Ars. Il a été nommé curé d'Ars en la 19e année du 19e siècle, 1818. Il a été canonisé par le pape en 1925. Marie est souffrante. La Sainte Vierge est douloureuse. La Sainte Vierge est comme une mère qui a beaucoup d'enfants. Nous n'avons qu'une petite paroisse ici, mais voyez, dans une grande paroisse, elle est sans cesse occupée et de l'un et de l'autre, et des uns et des autres. Dans la grande paroisse de la terre, tant qu'il y aura un seul pécheur sur la terre, elle sera en mouvement continuellement. La Sainte Vierge nous a engendrés deux fois. Parce qu'elle est comme une mère, et avec cette multitude d'enfants, oui, elle nous a engendrés deux fois. Dans le mystère de l'incarnation, elle nous a engendrés. Et au pied de la croix, elle nous a engendrés une deuxième fois. Quand Dieu a engendré la nature humaine dans son sein, elle a engendré notre nature humaine. Et la deuxième fois, elle a engendré la vie éternelle de son Fils crucifié. Dans tous ses enfants, elle nous a engendrés une deuxième fois. On compare souvent la Sainte Vierge à une maman, mais elle est encore bien plus, bien davantage et bien meilleure que ce qu'exprime la maternité, la meilleure. Parce que la meilleure des mères punit quelquefois son enfant qui lui fait du chagrin. Elle croit bien faire. Mais la Sainte Vierge ne fait pas comme ça. Elle est tellement bonne qu'elle nous traite toujours avec amour et elle ne nous punit jamais. La Sainte Vierge est comme une mère qui est sans cesse en mouvement avec ses enfants. Son cœur n'est qu'amour et miséricorde, et elle ne désire que de nous voir dans la béatitude, être heureux, dès cette terre et surtout dans le ciel. Il suffit seulement de se tourner vers elle, et elle exauce tout. Le Fils a pris le visage dans l'humanité de la justice pour nous sauver. Alors, à sa mère, il n'a laissé que son amour sans limite et sans fin. La Sainte Vierge est comme une mère qui a beaucoup d'enfants. Si vous voulez la voir, regardez bien, parce qu'elle est continuellement occupée à aller de l'un à l'autre, sans s'arrêter. J'ai dit que la Sainte Vierge, en fait, nous a engendré trois fois. Nous a engendré à l'incarnation, nous a engendré au pied de la croix, et elle nous engendre aussi à la résurrection. Pourquoi? Parce que quand on rentre, quand on va mourir, quand on va s'endormir, quand on va s'endormir, on sera engendré à... à la lumière divine de l'absolution, c'est-à-dire l'Immaculée Conception, pour aller jusqu'à la vision béatifique. Donc la grâce, le lien entre la grâce, l'absolution, la vivante lumière, l'absolution après la mort, c'est le purgatoire. C'est la mère qui l'engendre. Elle remplace notre âme. Notre âme est complètement inondée, illuminée, immaculisée. Après la mort, il n'y a pas de péché possible. S'il y a le péché possible après la mort, c'est qu'on n'est pas sauvé, quoi. Ça, c'est sûr. Si après la mort tu pêches encore une fois, c'est que là on ne peut plus rien faire pour toi. Donc, ou bien tu es dans l'absolution, ou bien tu n'es pas dans l'absolution, c'est tout. Hein. Et l'absolution, tant qu'elle engendre ce qu'elle est, ce qu'elle vit, c'est le purgatoire, l'absolution. L'absolution c'est une lumière vivante, c'est la lumière vivante de Marie qui engendre ce qu'elle est. Et ça devient notre âme quelque part, et comme... ce qu'elle est dans sa vie intérieure, elle est une absolution vivante qui immaculise, voilà pour la vie purgative, qui illumine, voilà pour la lumière surnaturelle qui fait écouler le monde incréé de Dieu et de la lumière dans la lumière surnaturelle et divine de notre âme, et du coup c'est là où on est sanctifié. Elle fait qu'on revient semblable à Dieu. Et c'est elle qui engendre aussi l'unité parfaite, la perfection. C'est-à-dire la proximité, la sponsalité, le mariage spirituel. Tout ça, c'est la vie du purgatoire, mais elle engendre en nous ce qu'elle est. Et puis, en fait, elle engendre aussi en une seule fois. Parce que, on le sait très bien, une naissance, une nativité ne se fait pas comme ça, en un milliardème de secondes. Il y a toute une gestation qui la prépare. L'avant, le pendant, l'après. C'est pour ça que le purgatoire peut, on peut considérer que le purgatoire, la vie divine que la mère nous engendre, à partir d'elle, pour que nous soyons comme elle, aux portes de la lumière de gloire. Ça fait partie de la lumière de gloire. Quand on pénètre la lumière de gloire, c'est elle qui engendre. Elle est quand même la mère de la lumière de gloire. Et cette lumière de gloire, elle l'a engendrée. Elle l'engendre. C'est beau ça, de voir que Saint Joseph est au principe de l'Immaculée Conception, mais que la Sainte Vierge est au principe de la lumière de gloire de Saint Joseph. Elle est la mère de la vision béatifique de Saint Joseph. C'est ce que dit le Concile Vatican II, puisqu'elle est la mère de l'Église, elle est la mère de tout ce qui est créé comme vie divine pour les hommes. Et enfin, bien sûr, elle est la mère de la résurrection. Elle engendre la résurrection. Elle a engendré dans Jésus la résurrection. C'est ça. Hein? C'est vraiment différent, hein, les protestants et les catholiques. Hein? Quand tu dis quand même que la mère de Dieu engendre la résurrection de Jésus. Tu dis, mais tiens, j'y avais pas pensé. Ah ben, il serait temps d'y penser. Ça, elle a engendré la résurrection. Et c'est pour ça qu'on dit, elle est la mère. Sinon, elle aurait... Les protestants, ils disent quoi? Les hérétiques. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la grâce de Dieu. Ceux qui ne reçoivent pas la grâce sanctionnée. Ceux qui ne peuvent pas être engendré et être des saints sur la terre et dans le ciel non plus. Il faut qu'ils deviennent catholiques. Hein. Après la mort, il faut qu'ils deviennent catholiques. Hein. Sinon, c'est pas possible. Si après la mort, ils disent « Moi, je suis protestant », c'est embêtant. Si tu es juif, tu as fait plein... Et tu meurs, et puis tu demandes pas immédiatement le baptême catholique, c'est embêtant. Très, très ennuyeux. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle indique bien qu'elle est mère de Dieu. Marie, c'est le modèle de notre foi. Et là, par sa foi, par son Immaculée Conception, c'est vrai. Mais elle n'a pas tourné les pouces avec son Immaculée Conception. Elle a fait produire de son Immaculée Conception une foi qui s'enfonce, qui pénètre pas comme une fusée du Saint-Esprit à l'intérieur de Dieu, mais qui s'enfonce dans la paternité de Dieu. Parce qu'elle est à la porte de l'éternité créatrice et de l'activité créatrice du Père. C'est ça l'Immaculée Conception, elle est. Et donc elle s'enfonce dans la paternité de Dieu, s'y confondant par une foi qui est immédiate et, je veux dire, libre et qui est de plus en plus grande, de plus en plus profonde. C'est sûr ça, oui. Et c'est pour ça. Elle a engendré avec le Père éternel dans le monde incréé une disparition du temps. Et devant la lumière donc de la foi de l'Immaculée Conception, comme elle y est dans une unité qui est totale en elle-même, son corps, sa chair, son sang, ils sont dedans. C'est librement qu'elle vit l'assomption de son Immaculée Conception. Et c'est un petit peu à cause de ça qu'il faut, à partir de sa conception, dans l'Immaculée Conception, qu'il faut à peu près 19 ans, quoi. Et puis encore le contenu de 19 ans. C'est pour ça que Jésus va mourir, va ressusciter, au fond, pratiquement 18 années pleines, enfin 19 ans et 18 années pleines, après la conception de l'Immaculée Conception. C'est à cause de ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est à cause des lois de la chair et du sang. Il faut, pour le corps spirituel, il faut environ 10 ans pour être rendu, pour être entièrement purifié, entièrement accueillant, et 10 ans encore pour être entièrement divinisé. Le poids du corps se renouvelle tous les 10 ans. Et donc voilà, elle a été assumée, quoi. Elle s'est laissée assumer de plus en plus par des actes de véhémence surnaturelle, elle se laissait complètement, mais complètement, assumer par d'amour et de lumière et d'éternité. Et du coup, c'est pour ça que le père et la mère ont été dans une unité, quoi. Une unité de lumière et de chair et d'esprit, puisque Dieu est pur esprit et de lumière et d'amour, de spiration en fait. Cette spiration éternelle permet d'aller au-delà. De la chair, du temps et de l'éternité. Plus profondément, si on peut dire. En tout cas, plus sublime. Une gola en extension qui n'existait pas en Dieu. Et c'est à partir de cette gloire en extension qui n'existait pas en Dieu, qu'elle a engendré, que à l'intérieur de Dieu a été engendré un regard de Dieu sur une gloire extensive beaucoup plus glorieuse que celle qui n'existait pas avant, qui est l'Assomption de Marie dans son Immaculée Conception, dès son premier instant de vie. Ah! J'y avais pas pensé. C'est beau ça, moi j'avais pas pensé à ça. Mais enfin, bon père, cher père Martin Luther, il fallait y penser quand même. Elle est mère de Dieu. Elle a engendré la foi catholique. Elle a engendré Marie. Enfin, nous, quand on fait un acte de foi, il faut savoir ce qu'on fait. Quand on fait un acte de foi, on sait. Marie sait ce qu'elle fait. Quand on fait un acte de foi, ce qu'elle produit. Elle pénètre à l'intérieur de se laisse assumer et qu'elle engendre une lumière surnaturelle de la foi. C'est pas Dieu qui fait un acte de foi. C'est la créature qui fait l'acte de foi. C'est nous. Donc elle fait un acte de foi, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qui se passe. Eh bien, elle engendre à l'intérieur de l'éternité de Dieu, ayant entièrement disparu à l'intérieur de du monde incréé de Dieu. L'aspiration d'amour de Dieu a absorbé complètement tous les instants présents, tout l'univers à travers nous, et nous-mêmes aussi. Et il est allé au-delà de lui-même, au-delà d'un plus profondément que l'unité avec nous, dans cet acte de foi. Et du coup, quelque chose s'est engendré dans l'éternité de Dieu. Dieu a regardé l'humilité de la foi, de la créature tout entière. Et donc il a associé sa aspiration active à une aspiration passive. Et du coup, l'opération du Saint-Esprit a pu engendrer à l'intérieur de Dieu un regard éternel. Et quand Dieu regarde, voit un respectus de lumière de Dieu à l'intérieur de Dieu, c'est un engendrement éternel. C'est pas un engendrement dans le temps, c'est un engendrement dans l'éternité. Marie a engendré le respectus, voilà, catéchisme. Marie a engendré le respectus, là il faut apprendre par cœur, votre frère François. On compte sur vous pour proclamer ça au monde entier. Marie a engendré le respectus du Verbe vis-à-vis du Verbe, vis-à-vis de son incarnation. C'est elle qui a engendré la vision de Dieu, le regard de Dieu sur lui-même par rapport à la création tout entière. Et en particulier, c'est elle qui a engendré que Dieu regardait à l'intérieur de lui sa divinité éternelle, qu'elle était éclatante dans une gloire extensive. Et du coup, comme Dieu a regardé que sa gloire devait, pouvait être extensive grâce à l'acte de foi de Marie, eh bien, il a regardé, respecte tous du Verbe, le regard du Verbe vis-à-vis de son incarnation, il a regardé sa propre incarnation. L'incarnation est venue après. Mais Marie a engendré le regard de Dieu vis-à-vis de son incarnation. Et après, le Verbe s'est incarné. Donc alors, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est la mère de Dieu. Et du coup, il y a un autre regard sur sa propre gloire éternelle. Et du coup, il s'est incarné dans un troisième temps. Elle a engendré le monde incréé de Dieu en Dieu. Et donc, tout ce qui a été réalisé par le Verbe de Dieu, à partir de son respectus divin et éternel vis-à-vis de son incarnation, c'est elle qui en est la mère. Si Marie n'avait pas été au pied de la croix, si Marie n'avait pas été là pour la deuxième nativité du curé d'Ars, si elle n'avait pas été là, mais Jésus n'aurait pas pu mourir, puisque c'est Dieu. Dieu ne peut pas mourir. L'union hypostatique de Jésus, c'est-à-dire l'union entre la divinité et l'humanité de Jésus, est tellement puissante que c'est impossible de la déchirer. Et c'est dans le temps qu'il y a eu cette union hypostatique déchirée de Jésus. Saint Augustin dit que l'union entre la nature humaine de Jésus, l'humanité de Jésus, et toute la divinité de Jésus est tellement forte qu'elle est plus forte que l'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu savais ça? Bon, ton père s'est trompé, il aurait dû t'appeler Augustin, pas François, pour devenir un peu théologien, quoi. Pas théologien, mais... Je dis, mais... Parce que dans l'unité de la Très-Sainte Trinité, il y a trois personnes, elles sont unies. Mais c'est pas parce qu'elles sont uniques, du coup les trois personnes n'existent plus, elles existent encore. Tandis que dans la nature humaine, dans l'union hypostatique de Jésus, l'unité entre l'humanité de Jésus et toute sa gloire extensive, hein, finalement, de Dieu, et puis la nature divine de Dieu en lui, et c'est Dieu vivant en lui, hein, est tellement forte que dans la nature humaine, la personne a disparu. Est absorbé, il n'y a qu'une seule personne dans le Christ. Et Saint Augustin dit, ça prouve bien que l'unité qu'il y a dans Jésus entre la nature humaine et la nature divine fait disparaître la personne. La personne humaine, il n'y a pas de personne humaine dans Jésus. Il n'y a qu'une personne divine, c'est tout. Donc, c'est pour ça que quand, tu vois, elle est au pied de la croix, Jésus ne peut pas mourir. Mais elle a engendré à l'intérieur de Dieu un regard de Dieu sur un mystère d'incarnation rédemptrice. Elle a engendré aussitôt. Donc c'est l'union hypostatique déchirée, ça vient d'elle. Elle est le principe de. Elle est le principe de la mort. La lumière hypostatique de Jésus, parce qu'elle garde pendant ce temps-là sa maternité éternelle qui fait subsister l'unité du corps, de l'âme, de l'esprit, de la divinité de Jésus sur la croix. Dans son cœur, Jésus n'est pas mort. Dans le cœur immaculé de Marie, Jésus n'est pas mort. Elle est toujours la mère de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et si elle n'avait pas été là, eh bien, la mort de Jésus aurait été impossible. Elle est la mère de la mort du Christ. Elle est la mère de... Elle a engendré l'union hypostatique déchirée de Jésus. Et c'est la transverbération qui a permis ça. Voilà. Tu vois, l'évangile, on l'a lu, l'évangile de Saint-Luc. Les Juifs comprenaient ça très très bien. la Vierge, doit être transverberée. Un clair te transpercera, te transverbera complètement l'âme. Le Rabbi Simeon, Anachi, Simeon, eh ben, il avait la foi de l'Ancien Testament et il savait ça, que la Vierge devait être, à cause de sa virginité, assumée dans le monde incréé, être l'origine de la trans, de la mort du Christ, de l'union hypostatique, et donc elle serait forcément transverberée. Elle devrait porter la vie dans l'unité, la vie divine de Dieu incarné, pour permettre la mort du Verbe de Dieu dans sa propre incarnation. Donc l'unité entre Marie et Jésus pour la rédemption est totale. C'est une unité qui vient d'en haut. Et donc elle nous a engendré, bien sûr, sur la croix, c'est pour ça que curé d'Ars, bon, c'est normal qu'il dise ça. Elle nous a engendré au moment de la croix, elle a engendré cette subsistance, le fait que ce soit Dieu vivant qui anime notre âme et notre chair, beaucoup plus que notre esprit vivant humain. Il y a quelque chose qui fait que, effectivement, c'est Dieu qui est engendré en nous. Et nous sommes engendrés du Père. Nous sommes engendrés divins du Père. Nous sommes engendrés éternels du Père. Nous sommes désengendrés dès cette terre, du monde incréé de Dieu le Père dans le Fils. Par l'opération du Saint-Esprit. Ça, c'est Marie qui l'engendre en nous, ça. Mais une troisième fois, elle va être engendrante parce que elle est la mère de la résurrection. Tout ce qui est créé. La résurrection, avant la résurrection, il n'y avait pas de résurrection. La résurrection, elle est venue comme ça d'un seul coup. Donc la résurrection, elle n'est pas éternelle, incréée. Avant, elle n'existait pas. C'est exactement comme ta sœur. Avant d'être créée dans le ventre de sa mère, elle n'existait pas. Découverte quand même ça. Je découvre que avant que Dieu m'ait créé, j'existais pas. Non mais ça, on fait des découvertes comme ça de temps en temps, en disant tiens, en allant planter du romarin. Je découvre que avant que Dieu m'ait créé, j'existais pas. Pourquoi? Parce que ta sœur, c'est une créature. Moi aussi. Et tout ce qui est créé, sorti de la main de Dieu, et bien la résurrection, avant que Jésus ne ressuscite d'entre les morts, personne n'est jamais ressuscité. Je parle de la résurrection éternelle, évidemment. Parce qu'il y a eu la résurrection de Lazare, il y a eu la résurrection de... Il y a eu des résurrections avec Élie le prophète, Élisée, etc. Il y a eu des résurrections. Mais c'était des résurrections... c'était des miracles, c'était pas des résurrections. La résurrection, quant à la résurrection, elle est éternelle. Et bien, à un moment donné... Clac ! Résurrection. Avant cette résurrection, la résurrection n'existait pas. Exactement comme ta sœur. Avant qu'elle ait commencé à exister, elle n'existait pas. Rien. Il n'y avait rien. Néant. À partir du néant, elle a commencé à exister. C'est pourquoi? Parce qu'elle est créée, ta sœur. Vous comprenez, frère Augustin? Bon. Et donc elle est mère de la résurrection. Tout ce qui est créé et qui vient de Dieu dans la matière est engendré par Marie. Elle est mère. Voilà ce que dit le Concile Vatican II. Il n'y a pas beaucoup de conciles qui ont osé dire ça. Hein. Tu sais, quelquefois on critique le concile des intégristes. On dit mais... oui, mais enfin... Marie, Mère de l'Église, vous avez entendu dire, Marie, Mère de la Grâce, Marie, elle est mère de tout ce qui est divin dans l'apparition du divin à l'intérieur du monde créé, elle est la mère. Rien de ce qui est divin dans le monde créé ne trouve son origine dans sa maternité. Donc la résurrection, c'est quelque chose qui est apparu de divin dans le monde créé, puisqu'avant elle n'existait pas. Donc elle est la mère de la résurrection. Non? Ce frère Augustin est admirable. Et donc elle engendre la résurrection. Elle est mère de la résurrection. Je trouve ça joli, ça, hein, du point de vue du mariage, dans le sacrement de mariage. Il y a la présence réelle du mariage. Mais si dans le sacrement de mariage, il n'y avait pas la présence réelle du mariage, je serais très 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 déçu. C'est vrai, il y a la présence réelle du mariage. Marie et Joseph sont mariés. Joseph a engendré, comme Adam fait sortir, Dieu fait sortir d'Adam son épouse. C'est de lui qu'Immaculée Conception est sortie, vous savez ça. Parce que grâce à la toile maintenant, on peut savoir ces choses-là. Et en échange, Marie engendre en Saint-Joseph sa résurrection d'éternité. C'est pas extraordinaire ça comme sponsalité. Quand elle s'enfonce à l'intérieur de Joseph, qui est la source de sa plénitude de grâce, et qu'elle disparaît assumée dans l'au-delà de l'unité de Dieu, elle engendre en Saint-Joseph sa résurrection éternelle. Ça, ce mouvement-là, que le curé d'Ars dit, elle est tout le temps en mouvement. Ce mouvement, il est présent réellement divin et incarné. Il est présent dans le sacrement de mariage, dans la sponsalité surnaturelle, dans la transactuation surnaturelle, sponsale du sacrement de mariage. C'est le monde intérieur habituel de ton père et de ta mère, ça. Ils nagent là-dedans comme... c'est leur seconde nature. C'est le sacrement de mariage, c'est la transactuation surnaturelle. Ils le voient tout de suite. Et ils en sont le trône, ils en sont leur corps, j'allais dire, en est le temple. Et Jésus est rentré dans le temple. Et la gloire de Dieu est rentrée dans le temple. C'est-à-dire dans la paternité créatrice de Dieu. Et Marie-Joseph était là et ils étaient très étonnés. C'est merveilleux. Et donc Marie soit, pour ainsi dire, la mère de la croix glorieuse qu'on a fêtée hier. C'est ça que ça veut dire. Parce que dans la croix glorieuse, c'est la naissance, la troisième naissance. Dans l'union hypostatique de Jésus, elle a engendré pas seulement son incarnation, elle n'a pas été l'engendrement de son union hypostatique déchirée, elle était aussi l'engendrante de la résurrection de Joseph et de Jésus. À partir de son mystère de compassion. Et le mystère de compassion de Marie fêté le 15 septembre chaque année. Et bien sûr, on peut l'énoncer comme ça, mais celui qui est catholique, l'énoncé ne lui suffit pas. Pour celui qui est catholique, il faut qu'il puisse le comprendre, il faut qu'il puisse l'entendre, et l'ayant entendu, il faut qu'il puisse s'y enfoncer, l'ayant si enfonçant, il faut qu'il puisse y pénétrer. Y pénétrant, il faut qu'il puisse s'y écouler merveilleusement, tranquillement. S'y écoulant merveilleusement et tranquillement, il faut qu'il puisse le voir dans la lumière de l'opération du Saint-Esprit et le contempler. Et le contemplant surnaturellement, il peut y être transformé. Alors ça y est, s'il a fait ces 7 étapes, il est devenu catholique. S'il reste à l'énoncer, il est toujours protestant. Les gens ne savent pas la différence entre les protestants et les catholiques, c'est bizarre. Hein? Pour un protestant, t'as pas besoin de l'énoncer, ça suffit, tu peux pas y pénétrer, c'est incompréhensible. Pour Luther, c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce que tu vas creuser la doctrine infaillible de l'Immaculée Conception? Tu peux pas. Ça te dépasse. Ça te dépasse l'intelligence grégaire, périphérique. Mais l'intelligence mariale, l'intelligence catholique, non, elle est recréée par Dieu et elle est capable de faire en sorte qu'on passe de l'énoncé à ces 7 grandes étapes qui permettent donc d'être contemplé. Et puis tu deviens ce que tu contemples, et puis tu vois, mais tu dis, mais bien sûr, évidemment, et tu vois comment ça se fait, comment ça se réalise, quel est ce mouvement du mystère de compassion de Marie dans la croix glorieuse. Qui fait qu'elle engendre dans la résurrection de Jésus et de Joseph, alors qu'elle reste sur la terre, son mystère de compassion jusqu'à la fin du monde. L'agneau de Dieu. L'Apocalypse. Et tu le vois. Et tu vois de l'intérieur, ce que de l'intérieur elle opère sous l'opération du Saint-Esprit. Après la parousie, après l'avertissement, tu crois quoi? Qu'on va rester là à végéter à la périphérie protestante, comme font tous les catholiques aujourd'hui? Ou que tu vas t'enfoncer dans l'océan divin de la Jérusalem spirituelle véritable? Lorsqu'elle embrasse la Jérusalem glorieuse de sa propre lumière. Marie va engendrer la résurrection de l'Église catholique, puisqu'elle est totalement morte. Aujourd'hui. Elle va engendrer la résurrection de l'Église catholique. Dans la Jérusalem spirituelle, dans son embrasement de lumière, pour voir, contempler et devenir ce baiser du véritable amour, la rencontre de la Jérusalem spirituelle immaculée et de la Jérusalem glorieuse, dans le baiser du véritable amour, et le voir, le contempler et le devenir, pour qu'on puisse devenir ainsi comme elle, les sources dans le mystère de compassion. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le mystère de compassion qui engendre les 3 derniers sauts de l'Apocalypse. Les sauts de l'Apocalypse, c'est ce qu'il y a de plus profond dans la rédemption de Jésus. Parce que c'est l'intérieur du monde agréé de Dieu. Et en même temps, dans notre foi. Tu mets Marie en dehors de tout ça. Hein? Plus rien. Comme avant que Dieu m'ait créé. Avant que Dieu m'ait créé, il n'y avait rien. Elle est la maman dans son mystère de compassion. Alors on perd beaucoup de temps. Hein. Je ne sais pas quel est le dernier bouquin que vous avez lu. Quel bouquin vous avez lu? Le dernier bouquin que vous avez lu. Voilà. Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, Flaubert? Victor Hugo, Maître Benson, tout ça c'est ridicule. lire quand même avant. C'est l'Apocalypse. Et faut lire le livre de l'Apocalypse quand même. Voilà, c'est bien. Avec Maximilien Kolb, de préférence, faut pas lire de manière protestante, évidemment. Faut lire l'Apocalypse à la manière de Saint Maximilien Marie Kolb. C'est la seule lumière qui permet de le lire, d'ailleurs. Quel est mon dernier bouquin? Alors quand on est quoi? J-8. Compte à rebours, dans 8 jours, c'est le 23 septembre. Et je vais encore lire des bouquins, je pense. Ça paraît tellement absurde. Tellement, tellement débile. Et là est arrivé, le monde est en feu. Et il faut qu'il y ait un roi quand même sur la terre. C'est-à-dire quelqu'un qui vit du mystère de compassion de Marie pour permettre son déploiement dans la nature humaine tout entière. Et nous, on doit être unis au roi. Voilà notre lecture. Voilà notre formation. Nous sommes en formation. C'est pour ça que quand ta sœur a été au Carmel, eh ben, on lui a proposé des cours de formation. Mais comme les sœurs qui étaient chargées de la formation n'avaient pas été formées, du coup... C'est bien en même temps, c'est bien. Le cinquième sceau, c'est Marie, hein, de l'Apocalypse. C'est le cinquième sceau. Et ce sceau va pouvoir s'ouvrir à cause de la foi. De l'église qui est juste avant, quoi. L'ouverture des sceaux. Et la foi de ceux qui sont juste avant l'ouverture des sceaux, c'est nous. Hein. Donc il y a quand même une exigence. Alors tu me dis, je peux quand même entendre l'énoncé du curé d'Ars, puis Saint Augustin, Saint Maximilien Marie Kolb. J'ai entendu ça, mais maintenant, je vais lire dans le livre. Je vais le lire, ça c'est l'oraison qui fait ça. Je vais le relire dans le livre. En répétant aussi quelque part, c'est vrai, c'est vrai. C'est dans la Torah, c'est marqué, c'est en répétant. En répétant. D'ailleurs, Marie aussi tournait ces choses-là continuellement. Elle faisait tourner comme ça dans son cœur. Et en les répétant, ça se réalisait. Du moins, en les répétant, elle les contemplait. Et en les contemplant, elle leur faisait produire son fruit. Parce qu'on devient ce qu'on contemple. Et l'oraison sert à ça. Exactement le contraire du zazen, de la méditation transcendantale, du bodhisattva. Surtout ne rien contempler. Tandis que l'oraison chrétienne est une oraison contemplative. Où la lumière est tout le temps, sans arrêt, en mouvement. Et ce mouvement de lumière contemplative est un mouvement purement divin. Purement divin. Le catholique fait oraison. Le protestant ne fait pas oraison. Le catholique va prier, il va s'arrêter devant dans une chapelle, et il va bien s'asseoir, il va faire oraison de quiétude. Faire le vide du tracteur, le vide du métro, le vide de la télé. Il va se trouver bien, il n'y a plus de bois. Il va faire le vide. Il va devenir. Il va faire du vide bouddhiste, quoi. Ça fait du bouddha, ça. Ces catholiques feront raison, contemplatifs, surnaturels, purement divins. Le mouvement, le curé d'Asie, la mère de Dieu, dans ce message de compassion, est en mouvement continuel. Dans l'oraison, d'un mouvement de lumière purement divine. Mais si j'ai pas eu l'énoncé avant, ce que dit saint Paul dans les Épîtres, si j'ai pas eu l'énoncé avant, je vais mettre en mouvement quoi? La doctrine infaillible du Saint-Père est le carburant du mouvement. C'est pas la Bible, puisque les protestants, ils ont la Bible. Ils peuvent répéter la Bible pendant 3000 ans, ils n'auront rien du tout. Rien. Rabbi Anassi, Simeon Anassi, il ruminait la tradition orale infaillible des nations d'Israël. C'était pas l'écriture. Il connaissait très bien l'écriture, mais il se nourrissait, il contemplait la tradition infaillible des nations d'Israël, sortie de la bouche du Messie. Eh oui. C'est la doctrine infaillible du ciel et conservée et communiquée par sur abondance d'amour par le Saint-Père nous est donnée comme ça à nous. Et c'est ça la formation. C'est que les énoncés sont des paroles justes qui correspondent à la contemplation juste. C'est pas hérétique. Il n'y a pas une trace d'hérésie dans la doctrine mystique de l'Église. Et elle n'est pas écrite. Enfin, elle est transmise. Alors, l'énoncé est là. Et j'ai l'énoncé. Et du coup, j'ai de quoi, à partir de là, tourner ces paroles qui viennent on peut, à partir de là, faire des écrits. C'est ce qu'a fait Saint Jean. Il a écrit l'Apocalypse, mais derrière l'Apocalypse, tu as quand même, avec Marie, tu as quand même 62 ans. 62 ans d'engendrement, de doctrine mariale, immaculée. Hein? Parce qu'elle a resté à partir de la croix jusqu'à l'Apocalypse, ça a duré 60 ans, 20, 22 ans à l'Éphèse, plus 40 ans avant qu'il n'y ait pas l'Apocalypse. Donc Marie a engendré la doctrine orale, transmise à Saint Jean. Et puis finalement, ça a donné l'Apocalypse si on veut. Mais l'Apocalypse, c'est pas la doctrine. S'il n'y avait pas la doctrine, derrière l'Apocalypse, c'est l'iceberg. Petite partie, toute petite, minuscule partie de l'iceberg, l'Apocalypse. Mais c'est la masse profonde de la doctrine infaillible transmise. C'est ça la doctrine infaillible de l'Église. Elle est transmise par l'Église, par le Saint-Père. Et la doctrine, c'est infiniment plus important que l'écrit. Mais l'écrit n'est pas du tout mauvais. Voilà ce que ta sœur a appris dans sa formation karma. C'est la vie contemplative qui compte. Et l'union transformante, parce que cette lumière est toujours en mouvement, c'est la lumière intime de Dieu dans le monde créé, de ta transformation éternelle, qui opère, et comme tu le vois, parce que tu fais tourner. Tourner, c'est un mouvement de tourner. À l'intérieur de toi, tu fais rentrer dans l'éternité le cercle, toujours. C'est continuel, éternel, immortel. Ces paroles de vie qu'on ne peut pas écrire, mais qui correspondent à l'écrit, évidemment, mais qui donnent à l'écrit sa véritable assomption, sa véritable fécondité d'éternité, est totalement divine. Notre foi, elle est forcément maternelle. Elle engendre Dieu dans la gloire extensive. C'est ce que dit Jésus. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde, avant la création. Donc tu engendres dans la foi la glorification agréée de Dieu en extension. C'est énorme. Ah, j'y avais pas pensé. Tu n'y avais pas pensé? Ben, il serait temps d'y penser. Et donc, il va avoir y penser. C'est le danger aujourd'hui, hein, c'est de devenir bouddhiste. Hein. Pour protestant n'y est. Hein. C'est pas la peine d'être plus, tu peux pas plus. Hein. Donc, mais tu risques de passer au bouddhisme maintenant. Hein. Alors ça, c'est embêtant, ouais, parce que c'est le néant, quoi. C'est comme dit Saint Hildegarde, c'est l'Aquilon, quoi. Le néant. Pour l'éternité, c'est embêtant. Si t'as pas de vie contemplative, tu vas au néant. Bah, moi, je suis pas carmélite, moi. T'es pas carmélite? Non, t'es peut-être pas carmélite. La carmélite, elle te montre ce que tu dois faire. Marie, je suis pas la Sainte Vierge, moi. Je suis pas la Sainte Vierge, mais la Sainte Vierge te montre ce que tu dois faire. Marie est modèle de notre foi. Bon. Vous, comme vous ne venez à ma messe qu'une fois tous les 7 ou 8 ans, j'en profite pour faire une petite introduction, quand même. Une petite initiation au début du principe de base, du béaba, de la vie catholique, de la vie chrétienne. Il faut prier. Il faut prier. C'est pas un ministère réservé. Hein. Il faut prier. Il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Dans la lumière. C'est drôlement fort de comprendre ça. Quand on voit la différence dans notre oraison. Entre la nuit totale de la foi, où on voit rien, dans la nuit à quoi c'est de l'âme, d'une part, d'autre part, du milieu de cette nuit en fait c'est notre lumière parce que le Saint-Esprit nous fait voir des choses. Ce Saint-Esprit nous fait voir ces pointes de lumière éternelle qui sont à l'intérieur de sa spiration passive. Dans la nuit de la foi, on voit, mais oui, à l'intérieur de Dieu ce qui se passe. Dans l'esprit d'intelligence, l'esprit de science, de connaissance parfaite, éternelle de Dieu. Dans l'esprit pacifique, de pacification, de sagesse, de la croix. On voit, Saint-Esprit nous fait voir, et on le voit. Hein. Mais c'est divin, c'est vrai. C'est une vision divine. Et puis, à l'intérieur de l'horizon, comme ça, ces petites pointes de rien du tout, où on ne voit à nouveau plus rien, si je puis dire, mais en même temps, Dieu voit tout. Et on voit que Dieu voit. Ça, on le voit. Maria spirituelle. Passer c'est les trois étages du mouvement de la vie intérieure, du chrétienne, de la grâce sanctifiante dans la prière. Et passer de l'un à l'autre, au troisième, ça dépend de nous. Et il suffit de s'y enfoncer, d'y donner notre temps, et d'y être en acte, et d'actuer l'amour dans la lumière, pour que l'amour de Dieu qui est en nous, on devienne lumière. Et qu'on puisse pénétrer au-delà de la lumière de gloire que Marie engendre dans la nature humaine entière, déjà présente, dans la nature humaine entière, puisqu'elle y est aussi, elle, maintenant. Et ce mouvement doit être très très fort, très très fort, c'est pas un affaissement quoi, pour qu'il a monté qu'une dalénique, évidemment que non. Alléluia.